Radio de la paix, il est 12h. Le journal du midi, Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Radio de la Paix. Élections locales 2023, après la tenue des scrutins samedi dernier, eh bien, nous aurons l'analyse du professeur Jean-Marie Kouakou, observateur de la scène sociopolitique ivoirienne, sur le paysage électoral, justement après les résultats qui sont donnés depuis dimanche dernier. Et puis le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a tenu un séminaire de validation et de finalisation de l'avant-projet de loi relative aux communications électroniques. Les enjeux et réformes de cette rencontre ont été situés notamment sur la protection des marchés. Dans l'actualité, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, deux responsables militaires arrêtés et deux officiers de police suspendus après la mort d'une cinquantaine de personnes dans une répression de manifestation mercredi dernier à Goma. Et enfin, d'édition, Soro Adams recevra dans l'invité de la rédaction l'imam Sekou Sila, membre du bureau exécutif du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Il parlera de l'extrémisme violent et les mesures prises par cette institution pour le prévenir. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. Les résultats de 199 communes sur 201 et 30 régions sur 31 sont connus depuis dimanche dernier, notamment une nette domination du RHDP, parti au pouvoir, et un recul des partis d'opposition, notamment le PDCI et le PPACI. Quelle lecture faire de ce nouveau paysage électoral après ces élections locales? Suivons là-dessus les éclairages du professeur en lettres modernes, Jean-Marie Kouakou, observateur de la scène sociopolitique ivoirienne. Il a été joint par Soro Adams.
On peut dire globalement que le parti au pouvoir a conforté sa position dominante, qui était déjà observable en 2020 dans les dernières élections municipales et régionales. Là, c'est peut-être même un peu plus marqué au vu des résultats tels qu'ils nous ont parvenus. Je ne pourrais pas faire de commentaires ultérieurs puisqu'il y a beaucoup de contentieux. On ne sait pas en quoi exactement à quoi vont aboutir les contentieux, si ça va modifier significativement ces résultats ou pas.
Alors, professeur Jean-Marie Kouakou, certains parlent de débâcle en ce qui concerne les partis de l'opposition, singulièrement les grands partis comme le PDCI, le PPACI. Vous le confirmez?
Au vu de ce qui est donné actuellement de lire, on est quand même surpris de voir effectivement que le PDCI, surtout le PPACI, me semble, sont en net recul électoral et la dimension, la grande taille de leur parti ne se confirme pas au vu de ce qu'on observe actuellement. Le problème majeur étant le problème qu'on observe dans la plupart des élections généralement observées en Côte d'Ivoire et voire aussi en Afrique, c'est faut-il considérer le résultat en lui-même ou faut-il voir tout l'arrière-plan du résultat, à savoir tout ce qui est contesté généralement par les parties perdantes. C'est-à-dire, est-ce que le listing électoral, la distribution des cartes a été faite conformément? Est-ce que le scrutin a été tenu dans la régularité stricte et entière? Ce sont des questions qui ne permettent pas de faire une analyse définitive et finalement viable.
À l'instant, le professeur Jean-Marie Kouakou, observateur de la scène sociopolitique ivoirienne, également professeur de lettres. Et puis la convention de la société civile ivoirienne qui regroupe 193 structures a pour ce scrutin formé et déployé 249 observateurs. Ils ont notamment couvert deux districts et 31 régions de la Côte d'Ivoire, marquant leur présence dans 3735 bureaux de vote. L'organisation, après le scrutin, a fait une déclaration préliminaire sur ces municipales et régionales et fait quelques recommandations. Suivons-les avec le président du conseil d'administration, Mamadou Kouma, au micro de Matatouré.
Recommandation. Pour consolider davantage la démocratie et mieux apaiser l'environnement des élections en Côte d'Ivoire, la Convention de la société civile ivoirienne recommande, en direction des autorités gouvernementales, de renforcer davantage la sécurisation du processus électoral, de poursuivre le dialogue avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques, en direction de la Commission électorale indépendante, CEI, d'améliorer davantage son dispositif opérationnel, réviser en amont la performance des tablettes, recommandation en direction des groupements et partis politiques, de faire preuve de retenue et d'avoir le sens des responsabilités, de privilégier le dialogue dans la résolution des différends, de former les militants et les sympathisants sur la vie politique. Pour conclure, au terme de ces élections couplées municipales et régionales du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, la Convention de la société civile ivoirienne note que ces élections se sont globalement déroulées de façon régulière et transparente. Aussi déplore-t-elle avec force les dégâts matériels observés ici et là, bien entendu dans certains bureaux de vote.
Vous écoutiez Mamadou Kouma, président du conseil d'administration de la Convention de la société civile ivoirienne. Et de son côté, le FOSCA aussi, le Forum de la société civile d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, dit avoir observé quelques couacs, ne remettant pas pour autant en cause la sincérité du scrutin, tout en faisant des suggestions pour les futures élections. Son coordonnateur national, Drissa Soulama, est joint par Francis Cassi.
Ce que nous avons constaté de manière globale, c'est que c'est un scrutin apaisé, malgré quelques manquements que nous avons observés sur le terrain. Certains bureaux de vote qui ont ouvert de manière tardive, le cas de Plateau, au groupe PG, où effectivement le vol a pratiquement commencé dans l'après-midi. Il y a eu aussi des cas d'endommagement de matériel électoral dans certaines localités, notamment Makori, Sassandra, Kitri, Sébissou et autres. En ligne aussi, il y avait eu des incidents de harcèlement et de violence dans certaines localités. Bon, ce sont des manquements qui n'ont pas une incidence notable sur la qualité du processus, mais qu'il convient de regarder de près, notamment à la commission électorale indépendante, pour faire en sorte que tous ces manquements puissent être corrigés pour le prochain scrutin.
Et en termes de recommandations, qu'est-ce que vous dites?
Oui, en termes de recommandations, il faut que la commission électorale indépendante renforce les capacités des agents électoraux au calcul des bulletins blancs et bulletins nuls, et aussi au remplissage des procès-verbaux de dépouillement, parce qu'on a constaté effectivement qu'il y avait des difficultés à ce niveau-là. Et puis il y a la question aussi du renforcement sur la chaîne de communication entre la commission centrale, les commissions locales, ainsi que les agents dans les bureaux de vote, afin d'harmoniser la question du mode opératoire et éviter aussi tous ces manquements dont je venais de parler plus haut, ainsi que les résultats dans un format analysable. Je voulais recommander aussi aux partis politiques d'œuvrer pour calmer les différentes tensions observées et éviter tout discours incitant à la violence et à la haine, mais aussi de suivre les procédures qui sont édictées par nos lois en cas de contestation liée à ces élections locales.
Drissa Soulama, coordonnateur national du FOSCA aussi, le Forum de la société civile d'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Et après la tenue des élections locales du 2 septembre dernier, comment fonctionne l'administration publique ivoirienne? Élément de réponse avec Mel Emmanuel Amani qui a fait le tour de certains services.
Plateau, cité administrative ce lundi 4 septembre. La reprise du service après le week-end électoral est au ralenti selon cet agent de l'État.
La reprise, en tout cas, c'est un peu lent, mais bon, toute reprise est difficile. Avec les élections, les campagnes, la fatigue, bon, en tout cas, ça va.
Pour cet autre fonctionnaire, la densité de la circulation est un motif de l'effectivité du fonctionnement de l'administration.
Après les élections, tous les fonctionnaires sont venus au travail. La preuve, on va les amputer un peu partout. Alors qu'il y a de cela 3 à 4 jours, les rues pas subi.
Au cabinet du ministère de la Justice, c'est le vide par endroit, nous confie Doumbia Boaké.
Nous sommes là ce matin, il n'y a pas trop d'engouement. Le personnel n'a pas encore repris totalement. Les coins sont un peu vides, tout ça.
Le constat est tout autre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Pendant la période de campagne, on a constaté que les routes étaient vides parce que tout le monde était presque parti à l'intérieur pour faire les campagnes. On venait tranquillement au travail parce qu'il n'y avait pas d'embouteillage. Mais à la reprise, on a constaté que vraiment les routes sont brûlées, les embouteillages ont repris. Ce qui veut dire que les gens sont revenus effectivement au travail. Tout le monde a son poste, personne ne manque. Donc le ministre est revenu avant tout le monde.
Présent sur les lieux la semaine dernière pendant la campagne électorale, nous faisons aujourd'hui le constat d'une reprise totale des activités dans certains services et d'une lenteur dans d'autres de l'administration publique ivoirienne.
Ce mardi 5 septembre se tient la cérémonie officielle du prix national de l'excellence. Cette édition, qui marque le 10e anniversaire de la célébration du mérite ivoirien, se tient en ce moment au palais présidentiel au plateau et verra au total 83 prix décernés aux filles et fils du pays qui excellent dans divers domaines d'activité tels que l'éducation, l'entrepreneuriat, les organisations socio-culturelles, l'administration publique ou les collectivités territoriales. Notons que le prix d'excellence est doté d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Et puis le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a récemment organisé un séminaire national de validation et de finalisation de l'avant-projet de loi relative aux communications électroniques. Plusieurs acteurs du secteur ont pu ainsi partager leurs préoccupations. Compte rendu Mata Touré.
Ce séminaire de validation et de finalisation de l'avant-projet de loi sur les communications électroniques a regroupé les membres d'un groupe de travail composé de plusieurs entités, dont un comité scientifique, donc Envoli Kaku Stanislas, et le président. Il nous situe ici les enjeux de cette rencontre d'échange.
La réforme qui s'est faite cette année concerne donc la prise en compte des nouvelles exigences du marché à l'aide des technologies émergentes et de tout l'environnement international. Que ce soit sur notre continent avec l'ouverture des espaces économiques désormais, la ZLECAF, et à ce titre l'Union africaine même en train de travailler sur un cadre d'ouverture donc de tout ce qui est secteur de l'économie numérique, y compris dans l'espace UEMOA. Il était bon pour nous déjà de nous mettre en ordre de bataille et ajuster notre instrument, notre véhicule essentiel qui va donc protéger notre marché, nos acteurs, qui va aussi garantir les droits de nos utilisateurs compte tenu de ce que il n'y aura pas dans peu de temps assez de frontières étanches donc pour l'exercice des activités sur le marché.
Pour l'avocat spécialisé en droit numérique et expert de cet atelier, il s'agira de prendre en compte les préoccupations des différents acteurs du secteur. Guy Bessangou, Ndassien.
Et d'ailleurs, concernant le consommateur, la ZLECAF est en train d'élaborer un protocole sur l'accord sur la ZLECAF, sur le commerce numérique. La loi actuelle aussi va tenir compte de ces aspects-là.
Les travaux vont se dérouler essentiellement en plénière sur 5 jours.
L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, UFPC, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, OIT, a organisé le 1er septembre dernier à Abidjan, Cocody, un séminaire à l'endroit des footballeurs en activité, mais également des acteurs du football. Cette rencontre avait pour thème le football professionnel entre passion, travail, professionnalisme et reconversion. Le compte-rendu est signé Didier Blé.
L'objectif de cette rencontre était de renforcer les capacités des joueurs et acteurs de football sur les éléments constitutifs d'un contrat de travail décent, les clauses, les droits et devoirs. Une immigration doit être bien préparée. Quelques axes explorés au cours de ce séminaire avec Madame Fanny, directrice de l'UFPC.
Le football, travail et immigration. Le débat sur le football féminin, football et passion et professionnalisme. Les éléments constitutifs d'un contrat de travail de façon générale.
Il faut mettre en exergue l'entrepreneuriat, la formation professionnelle pour l'après-carrière, car les paradigmes ont changé. Zoro Marc, président de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire.
Il y a au moins 20 ans de cela, le football était à un moment de bonheur, il avait un bon parfum. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Il faut ramener ce même écosystème et puis aider nos jeunes frères à la reconversion, puis aussi les accompagner avec tous les produits de nos partenaires.
Le football est un métier, il est important d'organiser ce secteur. Frédéric Lapeyre, directeur pays de l'Organisation internationale du travail.
Une rémunération décente, c'est de la protection sociale, une assurance maladie, une assurance accident du travail. La question de pouvoir maîtriser son destin, d'être protégé contre les différents risques de la vie, notamment la question de la reconversion.
Ni contrat formel, ni visite médicale, salaire irrégulier, la question du football féminin a été évoquée au cours de ce séminaire. Créé en octobre 2022, l'UFPC s'est assigné pour mission de veiller au strict respect des contrats des footballeurs et améliorer leurs conditions de vie.
Dans l'actualité internationale, le gouvernement congolais a annoncé hier lundi l'arrestation de 2 responsables militaires après la répression d'une manifestation qui a fait une 50aine de morts mercredi dernier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Les autorités ont également décidé le rappel à Kinshasa pour consultation du gouvernement militaire du Nord Kivu, ainsi que la suspension de 2 officiers de police également rappelés dans la capitale, a annoncé hier soir devant la presse à Goma, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et puis toujours sur le continent, le gouvernement malien n'a pas réussi récemment à atteindre l'objectif qu'il s'était fixé de récolter la somme de 25 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Qu'est-ce qui pourrait expliquer donc cet échec? Élément de réponse avec Dr Germain Cramaux. Il est enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocodier, également chercheur à la CAPEC.
Effectivement, comme vous le dites, le Mali avait souhaité mobiliser près de 25 milliards de francs CFA sur le marché régional. Et je crois qu'on en a récolté autour de 9,5 milliards. Donc je pense que cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, un, il y a le contexte international. Donc à ce niveau, on peut dire qu'il y a un durcissement des conditions financières au regard des incertitudes sur le marché financier. Donc, comme vous le constatez, les pays ont relevé leur taux directeur. Ça a été le cas aussi pour la BCAO. Donc, de plus en plus, les banques ont commencé à relever leur taux directeur. Et initialement, c'était dans le cadre de la lutte contre l'inflation. Donc, au niveau international déjà, il y a un durcissement des conditions financières. Donc ici, il est de plus en plus difficile pour nos pays d'aller sur le marché international pour emprunter. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a un an de cela, le Mali a réussi à mobiliser, si je me trompe, plus de 207 milliards sur le marché de l'UEMOA. Ils sont allés au-delà de leurs attentes, de l'objectif. Donc, ce n'est pas, je peux dire, spécifiquement lié au statut ou bien à la qualité des dirigeants actuels, mais c'est en partie dû à cela parce que lorsqu'il y a une raréfaction des ressources, si un investisseur doit investir, il va faire le choix d'investir dans le pays le moins risqué. Donc aujourd'hui, c'est la raréfaction des financements qui font que les pays qui seront vus comme plus risqués attireront moins les investisseurs.
Vous écoutiez Dr Germain Cramaux, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, également chercheur à la CAPEC. À présent, l'invité de la rédaction et celui que Soro Adams reçoit aujourd'hui est l'imam de la mosquée Nour de la Riviera 2, également membre du bureau exécutif du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, Kouzim. Il s'appelle Sekou Sila. L'entretien porte sur l'extrémisme violent et le terrorisme. Face à ces dangers qui frappent certains pays de la sous-région ouest africaine, le Kouzim entend prévenir. Question de mettre la Côte d'Ivoire à l'abri. Et pour ce faire, les imams de Côte d'Ivoire ont été mis en mission pour une campagne de sensibilisation. C'est un entretien à suivre maintenant.
Bonjour, imam Sekou Sila.
Bonjour.
Le président du COSIM vient de vous confier une mission de sensibilisation concernant l'extrémisme violent et le terrorisme. Qu'est-ce à dire, imam Sekou Sila?
Mais comme vous le savez, ce sont ces fléaux-là qui crée des problèmes à travers le monde aujourd'hui, et particulièrement dans notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest ici. Et le chef a attiré l'attention des imams sur l'importance de la lutte contre ce fléau, et à savoir informer nos fidèles et les sensibiliser sur le danger de ce fléau. Et particulièrement les imams, il nous a été demandé donc d'être très vigilants dans nos mosquées. Surtout de veiller à la présence d'individus non identifiés. Certes, la Côte d'Ivoire est dans une large part épargnée par ce phénomène. Néanmoins, nous restons vigilants, nous demeurons vigilants pour que le terrorisme, l'extrémisme violent ne vienne pas perturber la quiétude de nos concitoyens. C'est ainsi donc que chaque imam est appelé à faire cet effort de sensibilisation et d'éveil. Pour que donc nous ne soyons pas surpris par les événements et de ne pas se dire que nous ne sommes pas concernés. Voilà en quelques mots ce dont il a été question lors de ce discours, donc du chef. Premièrement, de sensibiliser. Et deuxièmement, de rester vigilant. Et surtout, de rester donc prêt pour assister toutes nos autorités qui luttent contre ces fléaux. Et l'extrémisme, Dieu merci en Côte d'Ivoire, sur le plan religieux, nous ne connaissons pas ce fléau. Néanmoins, nous devons veiller au grain pour qu'à tout moment, cela ne vienne pas perturber donc la quiétude de nos concitoyens.
Imam Sekou Sila, oui. Vous avez dit donc sensibiliser et rester vigilant. Qu'est-ce à dire?
Mais c'est d'abord de montrer, surtout pour ce qui nous concerne en tant que musulmans, c'est de montrer le vrai visage de l'islam. L'islam est une religion pacifique. L'islam nulle part ne demande à qui que ce soit d'aller combattre quelqu'un ou bien d'aller forcer quelqu'un à devenir musulman. Donc, il faut montrer le vrai visage de l'islam. L'islam est une religion de tolérance et le Coran nous enseigne que point de contrainte en matière de religion. Donc, nous devons enseigner cela et faire comprendre aux uns aux autres qu'on doit cohabiter avec tout le monde, chacun selon sa conviction, et on n'a pas le droit d'aller ôter la vie à quelqu'un à cause de sa croyance. Là, notre religion ne nous demande pas cela. Et ensuite, comme j'ai parlé de vigilance, évidemment, il y en a au nom de la religion peuvent venir s'infiltrer dans nos rangs. Et si on ne veille pas au grain, ben, on peut être surpris par des comportements, surtout d'individus qui revendiquent le travail islamique, alors qu'ils sont loin des idéaux de l'islam. Chacun doit donc ouvrir les regards et surveiller sa mosquée pour que des individus ne viennent pas donc perturber la quiétude de nos concitoyens.
Mais comment pourront-ils, vos fidèles, comment pourront-ils identifier un suspect dans les mosquées?
Mais déjà par son langage et puis par sa manière de faire. Surtout, on ne peut pas donner le micro à n'importe qui. Hein? Celui qui veut parler au nom de la religion ou bien qui veut prêcher, nous devons connaître le contenu de son message. Et nous devons le surveiller et faire en sorte que ce qu'il dit soit en adéquation avec notre façon de voir l'islam en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est la veille que nous devons faire à tout moment. Et chacun connaît bien sa mosquée et chaque imam connaît à peu près ce qui fréquente sa mosquée. Et dès lors que vous voyez une personne qui vient, qui n'est pas connue, et qui commence à tenir des propos qui ne cadrent pas avec notre manière de faire, ben, il devient un homme suspect. Et à ce titre, on doit à tout moment le surveiller et de faire en sorte qu'il ne devienne pas un danger pour notre société.
Imam Sekou Sila, le président du COSIM, vous a donc chargé de cette mission, vous guide religieux. La Côte d'Ivoire serait-elle exposée?
Mais bien sûr, on ne peut pas nier cela, puisque nos pays voisins, tout le monde sait ce qui se passe dans nos pays limitrophes aujourd'hui. Quand la case de ton voisin brûle, tu ne peux pas dire que tu n'es pas concerné. Parce qu'à tout moment, le feu peut tomber chez toi. Donc, c'est à ce titre que nous avons besoin d'être vigilants. Et compte tenu des échanges entre nos populations, nous avons l'obligation de rester très vigilants sur toute la ligne. Et surtout quand vous avez des centaines de kilomètres de frontières, croyez-moi, on a l'obligation de veiller au grain. C'est donc de surveiller nos mosquées et de voir à tout moment ces personnes qui peuvent venir semer de la désolation. Ça, c'est notre rôle.
Je vous remercie, Imam Sekou Sila.
Merci, Adams.
C'était l'invité de la rédaction, l'imam Sekou Sila, imam de la mosquée Nour de la Riviera 2, également membre du bureau exécutif du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, un entretien qui était mené par Soro Adams. Et c'est la fin de cette édition, le rappel de l'essentiel. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a tenu un séminaire de validation et de finalisation de l'avant-projet de loi relative aux communications électroniques. Les enjeux et réformes de cette rencontre ont été situés notamment sur la protection des marchés. Et puis en République démocratique du Congo, deux responsables militaires arrêtés et deux officiers de police suspendus après la mort d'une cinquantaine de personnes dans une répression de manifestation mercredi dernier à Goma. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Jean-Claude Comé pour la revue de presse.
Bonjour à tous. En attendant la phase du contentieux éventuel, presque tous les résultats des municipales et régionales 2023 sont connus.